bienvenue dans votre rendez-vous Les ondes pataphysiques, en hommage à Alfred Jarry, poète natif de Laval il y a 150 ans. Hommage à travers ses héritiers, les héritiers en littérature, en poésie, en sculpture et en peinture, les membres du Collège de pataphysique, créé le 11 mai 1948. Ces poètes pataphysiciens, honorés du titre de transcendant satrape du Collège de pataphysique, on trouve Boris Vian, Eugène Ionesco, Fernando Arrabal et Jacques Prévert. Mais qui était Jacques Prévert? Je crois qu'on le méconnaît. On a tous appris à l'école un poème de Prévert. C'était presque obligatoire. On le connaît comme un poète pour enfants, mais en réalité, c'était un être, oui, on peut le dire, un être doux, sentimental, mais qui savait aussi être violent. Un sentimental qui parlait avec attendrissement des amoureux, mais il savait aussi se dresser avec fureur contre toutes les sottises et les lieux communs. C'était un anticlérical et un anti-guerre, un pacifiste résolu, un anarchiste qui s'est dressé avec ses mots contre la guerre.
Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau louessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant? Sur cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang, et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest, et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
On m'a un peu reproché d'avoir dit quelle connerie, la guerre. Alors que la guerre n'était pas finie. Et qu'il fallait peut-être attendre qu'une autre commence. Mais pas changer. On peut t'expliquer naturellement. Les gens vous diront, t'as une sale guerre, t'as une bonne guerre. Ou cette bonne guerre, ou à la guerre comme à la guerre. On ne dit jamais à la paix comme à la paix. Un jour peut-être on dira cela. Mais ça ne paraît pas en prendre le chemin.
Vous venez d'entendre la voix de Jacques Prévert. Il faudrait qu'il revienne, notre Jacques Prévert, à l'heure où on assassine en Ukraine, à Gaza et dans bien d'autres pays du monde. Jacques Prévert nous manque, mais il nous reste sa poésie. Il faut écouter les poètes. Il faut écouter Jacques Prévert quand il nous prévient de l'arrivée des grandes catastrophes. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez polis avec la terre et avec le soleil. Jacques Prévert nous a pourtant dit et redit « Il faut être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits. » Pour tout ce qui est bon à manger, tout ce qui est beau à regarder, à toucher, il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le soleil et la terre. Alors, il faut les laisser faire. Ou bien ils sont capables de se fâcher. Et puis après, on est changé en courge, en melon d'eau ou en pierre à briquet. Et on est bien avancé. Le soleil est amoureux de la terre. Ça les regarde, c'est leur affaire. Et quand il y a des éclipses? Eh bien, quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent ni discret de les regarder à travers de sales petits morceaux de verre fumé. Ils se disputent. C'est des histoires personnelles. Mieux vaut ne pas s'en mêler, parce que si on s'en mêle, on risque d'être changé en pomme de terre gelée ou en fer à friser. Bien, le soleil aime la terre. La terre aime le soleil, c'est pourquoi elle tourne, pour se faire admirer. Et le soleil qui la trouve belle brille sur elle. Et quand il est fatigué, il va se coucher. Alors, la lune se lève. La lune, c'est l'ancienne amoureuse du soleil. Mais elle a été jalouse et elle a été punie. Elle est devenue toute froide et elle sort seulement la nuit. Il faut aussi être très poli avec la lune. Ou sans ça, elle peut vous rendre un peu fou. Et elle peut aussi, si elle veut, vous changer en bonhomme de neige, en réverbère ou en bougie. En somme, pour résumer, deux points, ouvrez les guillemets, il faut que tout le monde soit poli avec tout le monde. Ou alors, il y aura des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des paquets de mer et des coups de fusil. Et aussi, de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit. Les poètes, les vrais, sont des visionnaires. Jacques Prévert en était un. Il savait développer l'imaginoire, comme il l'a dit. Mais il savait aussi peindre la réalité pour mieux la mettre sous notre nez. Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire. Et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement, sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut, malgré lui, lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et l'Apie, le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre, étourdi, perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme. Et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve seul devant cette toile inachevée, avec, au beau milieu de la vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Bienvenue sur les ondes pataphysiques de Radio Tiroir. Les ondes pataphysiques honorent les héritiers littéraires d'Alfred Jarry. Et après Arabal, après Boris Vian, après Ionesco, nous sommes aujourd'hui en présence de Jacques Prévert, celui qui nous manque aujourd'hui. Prévert, dit-on, a commencé à écrire vraiment pour un groupe d'agitation de propagande, un groupe d'ouvriers qui voulaient faire la révolution. Les premiers textes étaient destinés à être dits dans la rue devant les usines en grève. Et peu à peu, son écriture, sa poésie, s'est intéressée principalement aux petites gens. Voici un texte appelé « Événement » qui fut publié en 1937. Événement. Une hirondelle vole dans le ciel, vole vers son nid où il y a des petits. Elle rapporte une ombrelle, des vers de vase, des pissenlits, un tas de choses pour amuser les enfants. Dans la maison où il y a le nid, un jeune malade crève doucement dans son lit, dans son lit. Sur le trottoir devant la porte, il y a un type qui est noir et qui débloque. Derrière la porte, un garçon embrasse une fille. Un peu plus loin, au bout de la rue, un pédéraste regarde un autre pédéraste et lui fait un adieu de la main. L'un des deux pleure, l'autre fait semblant. Il a une petite valise. Il tourne le coin de la rue et dès qu'il est seul, il sourit. L'hirondelle repasse dans le ciel. Et le pédéraste la voit. Tiens, une hirondelle. Et il continue son chemin. Dans son lit, le jeune malade meurt. L'hirondelle passe devant la fenêtre, regarde à travers le carreau. Tiens, un mort. Elle vole un étage plus haut et voit, à travers la vitre, un assassin, la tête dans les mains. La victime est rangée dans un coin, repliée sur elle-même. « Encore un mort, » dit l'hirondelle. L'assassin, la tête dans les mains, se demande comment il va sortir de là. Il se lève et prend une cigarette et se rassoit. L'hirondelle le voit. Dans son bec, elle tient une allumette. Elle frappe au carreau avec son bec. L'assassin ouvre la fenêtre, prend l'allumette. « Merci, hirondelle. » Et il allume sa cigarette. « Il n'y a pas de quoi, » dit l'hirondelle. « C'est la moindre des choses. » Et elle s'envole à tire-d'aile. L'assassin referme la fenêtre, s'assied sur une chaise et fume. La victime se lève et dit « C'est embêtant d'être mort, on est tout froid. »« Fume, ça te réchauffera. » L'assassin lui donne la cigarette. Et la victime dit « Je vous en prie. »« Mais c'est la moindre des choses, » dit l'assassin. « Je vous dois bien ça. » Il prend son chapeau, il le met sur la tête et il s'en va. Il marche dans la rue. Soudain, il s'arrête. Il pense à une femme qu'il a beaucoup aimée. C'est à cause d'elle qu'il a tué. Cette femme, il ne l'aime plus, mais jamais il n'a osé le lui dire. Il ne veut pas lui faire de la peine. De temps en temps, il tue quelqu'un pour elle. ça lui fait tellement plaisir à cette femme. Lui, il mourrait plutôt que de la faire souffrir. Il s'en fout de souffrir, l'assassin. Mais quand c'est les autres qui souffrent, il devient fou, sonné, cinglé, hors de lui. Il fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et puis après, il fout le camp. Chacun son métier. Il y en a qui tuent, d'autres qui sont tués. Il faut bien que tout le monde vive. Si t'appelles ça vivre, l'assassin a parlé. L'assassin a parlé tout haut. Et le type qui l'interpelle est assis sur le trottoir. C'est un chômeur. Il reste là du matin au soir, assis sur le trottoir. Il attend que ça change. « Tu sais d'où je viens ?» lui dit l'assassin. L'autre secoue la tête. « Je viens de tuer quelqu'un. »« Ah, il faut bien que tout le monde meure !» répond le chômeur. Et soudain, à brûle-pourpoint, « Avez-vous des nouvelles ?»« Des nouvelles de quoi ?»« Des nouvelles du monde. »« Des nouvelles du monde. Il paraît qu'il va changer. »« La vie va devenir très belle. » Tous les jours, on pourra manger, il y aura beaucoup de soleil, tous les hommes seront grandeur naturelle et personne ne sera humilié. Mais voilà l'hirondelle qui revient. L'assassin s'en va. Le chômeur reste là et il se tait. Il écoute les bruits. Il entend des pas et il les compte. Il les compte pour passer le temps machinalement. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., jusqu'à 100 et plusieurs fois. C'est un homme qui fait les 100 pas, au rez-de-chaussée, dans une chambre remplie de paperasses. Ah, il a une grosse tête de penseur, des lunettes en écaille, une grosse tête de roseau bien pensant. Il fait les 100 pas et il cherche. Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Et quand on frappe à sa porte, il dit « Je n'y suis pour personne ». Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Le monde entier pourrait bien frapper à sa porte, le monde entier pourrait bien se rouler sur le paillasson et gémir, et pleurer et supplier, demander à boire ou à manger, qu'il n'ouvrirait pas. Il cherche la fameuse machine à peser les balances. Ah, quand il l'aura trouvé, la fameuse machine à peser les balances, il sera l'homme le plus célèbre de son pays, le roi des poids et mesures de la France, et en lui-même, il pousse de petits cris, « Vive papa, vive moi, vive la France !» Soudain, il se cogne l'orteil contre le pied du lit. Ah, c'est dur, le pied d'un lit. Plus dur que le pied d'un génie. Et voilà le roseau pensant sur le tapis, berçant son pauvre pied endolori. Dehors, le chômeur hoche la tête, sa pauvre tête, bercée par l'insomnie. Près de lui, un taxi s'arrête. Des êtres humains descendent, ils sont en deuil, en larmes, et sur leur 31. L'un d'eux paie le chauffeur s'en va avec son taxi. Un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. Le taxi repart 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire, il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir, des milliers et des milliers d'adresses arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan. Alors, il prend cette tête entre ses mains, avec le même geste que l'assassin. Et il se plaint, tout doucement. 222 rue de Vaugirard, 33 rue de Ménilmontant, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, rue des Derniers des Mohicans. C'est fou ce que l'homme invente pour abîmer l'homme. Et comme tout ça se passe tranquillement, l'homme croit vivre. Et pourtant, il est presque déjà mort. Et depuis très longtemps, il va et il vient dans un triste décor, couleur de vie de famille, couleur de jour de l'an, avec le portrait de la grand-mère, du grand-père et de l'oncle Ferdinand, celui qui puait tellement des oreilles et qui n'avait plus qu'une seule dent. L'homme se balade dans un cimetière. Il promène, en laisse son ennui, il n'ose rien dire, il n'ose rien faire. Il a hâte que ça soit fini. Aussi, quand arrive la guerre, il est fin prêt pour être chroni. Et celui qu'on assassine, une fois sa terreur passée, il fait « ouf » et il dit « je vous remercie, me voilà bien débarrassé ». Ainsi, l'assassin roule sur lui-même et baignant dans son sang, il est très calme. Et ça fait plaisir à voir ce cadavre bien rangé dans un coin, dans ce coquet petit logement. Il y a un silence de mort. « On se croirait à l'église ?» dit une mouche en entrant. C'est émouvant. Et toutes les mouches, réunies, font entendre un pieux bourdonnement. Puis elles s'approchent de la flaque, de la grande flaque de sang. Mais la doyenne des mouches leur dit « Halte-là, mes enfants, remercions le bon Dieu des mouches de ce festin improvisé. » Et, sans une fausse note, toutes les mouches entonnent le bénédicité. L'hirondelle passe, elle fronce les sourcils, elle a horreur de ses simagrées. Les mouches sont pieuses, l'hirondelle est athée. Elle est vivante, elle est belle, elle vole vite. Il y a un bon Dieu pour les mouches, un bon Dieu pour les mythes. Pour les hirondelles, il n'y a pas de bon Dieu, elles n'en ont pas besoin. L'hirondelle continue son chemin et voit à travers les brises-bises d'une autre fenêtre, autour du jeune homme mort, toute la famille assise. Elle est arrivée en taxi, en larmes, en deuil, et sur son 31. Elle veille le mort. Elle reste là. Ah, si la famille ne restait pas là, le mort s'enfuirait peut-être. Ou bien peut-être qu'une autre famille viendrait et le prendrait. Quand on a un mort, on y tient. Et quand on n'en a pas, on en voudrait bien un. Les gens sont tellement mesquins. N'est-ce pas, oncle Gratien? Oh, à qui le dites-vous? Les gens sont jaloux. Ils nous prendraient notre mort à nous. Ils pleureraient à notre place. C'est ça qui serait déplacé. Et chacun, dans l'armoire à glace, chacun se regarde pleurer. Un chômeur assis sur le trottoir. Un taxi sur le boulevard, un mort, un autre mort, un assassin, un arrosoir, une hirondelle qui va et vient dans le ciel, couleur de ciel. Un gros nuage éclate enfin, la grêle, des grêlons gros comme le poing. Tout le monde respire. Ouf, il ne faut pas se laisser abattre, il faut se soutenir, manger. Les mouches lappent. Les petits de l'hirondelle mangent le pissenlit, la famille, la mortadelle, l'assassin, une botte de radis, le chauffeur de taxi au rendez-vous des chauffeurs rue de Tolbiac mange une escalope de cheval. Tout le monde mange, sauf les morts. Tout le monde mange, les pédérastes, les hirondelles, les girafes, les colonels. Tout le monde mange, sauf le chômeur. Le chômeur qui ne mange pas parce qu'il n'a rien à manger. Il est assis sur le trottoir, il est très fatigué. Depuis qu'il attend que ça change, il commence à en avoir assez. Soudain, il se lève. Soudain, il s'en va. À la recherche des autres, des autres, des autres qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont rien à manger. Des autres tellement fatigués, des autres assis sur le trottoir qui attendent que ça change et qui en ont assez et qui s'en vont à la recherche des autres, tous les autres tellement fatigués, fatigués d'attendre, fatigués. « Regardez, » dit l'hirondelle à ses petits, « ils sont des milliers. » Et les petits passent la tête hors du nid et ils regardent les hommes marcher. S'ils restent bien unis, ensemble les hommes, ils mangeront, dit l'hirondelle. Mais s'ils se séparent, ils crèveront. Restez ensemble, hommes pauvres, restez unis, crient les petits de l'hirondelle. Restez ensemble, hommes pauvres, restez unis, crient les petits. Quelques hommes les entendent, ils saluent du poing et sourient. Et pour conclure sur les ondes pataphysiques, notre rencontre avec Jacques Prévert, il nous faut évoquer Prévert, défenseur des enfants. En 1934, il est en vacances à Belle-Île-en-Mer. Il apprend qu'une mutinerie a lieu, dans un centre de redressement, ce qu'on appelait une prison pour enfants. Alors il écrit « La chasse à l'enfant ».
Bandit, voyou, voleur, schnappant.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements? C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y soumis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts barrages. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le
connerie la guerre, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau et vont pourrir au loin. Quelle connerie la guerre!
C'est une sale guerre, c'est une bonne guerre, ou cette bonne guerre, ou à la guerre comme à la guerre. On ne dit jamais à la paix comme à la paix. Un jour peut-être on dira cela, mais ça ne paraît pas en prendre le chemin.
Pendant la guerre de 1939 à 1945, Jacques Prévert était résistant dans le sud de la France. La poésie, disait-il, est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. Alors dans cette période de fin d'année où les guerres font tomber les bombes sur les Gazaouis comme sur les Ukrainiens, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis, comme Jacques Prévert, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple.